Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée ce matin par Charlie Clovis. Alors au programme chargé de cette émission en direct, je suis ravie de vous retrouver après une semaine et même un peu plus d'absence. La semaine dernière c'était férié, donc c'était rediffusion. Et bien aujourd'hui donc en direct, au programme, et bien on va parler d'un thème un petit peu atypique, Notre désir cannibale, du mythe aux faits divers. C'est un livre de Julien Picard, paru aux éditions L'Attrape-Corps, la collection L'Attrape-Corps aux éditions La Musardine. On va en parler dans une seconde. Et puis, dans cette première heure, on parlera aussi, comme chaque année, on parlera du Printemps des rues. Le Printemps des rues, c'est une manifestation qui a lieu en mai chaque année et qui propose au public parisien, au public de Paris et même d'ailleurs, de venir voir des spectacles de tout le long du canal Saint-Martin dans le 10e. Et cette année, c'est la 14e édition et ce seront donc les 7 et 8 mai 2011. On entendra Frichtig Concept, c'est une des compagnies qui va se produire cette année. Et puis on terminera cette première heure avec le reportage de Grégoire Ozoa. Grégoire qui est allé faire une petite balade assez énigmatique dans Paris. Mais tout de suite, comme chaque fois, on commence avec le 3e épisode du livre audio de Mano, Mémoire d'un obsédé, un livre que vous pouvez écouter et télécharger donc gratuitement sur son site mano-livre.com. Tout de suite, épisode 3.
Épisode 3. J'ai mis du temps à m'endormir ce soir-là. Je repensais à mes amours secrets. La première sur la liste s'appelait Fleur. J'étais tombé amoureux fou d'elle, à n'en plus manger, dès que je l'avais vue le jour de la rentrée des classes. Elle venait de Perpignan ou de Bordeaux, je ne sais plus. En tout cas de la campagne. C'était la plus belle de l'école. Là-dessus, tous les garçons étaient d'accord. Ses cheveux blonds brillaient au soleil, et quand ses yeux d'un bleu délavé vous fixaient, interrogateurs et coquins, vous fondiez. Elle sautait très bien à l'élastique. Il n'était pas impossible qu'elle fût d'ailleurs la meilleure de l'école à ce jeu. Quant à moi, j'étais le premier aux osselets. Nous avions comme point commun d'être champions dans nos disciplines respectives, heureux hasard qui pouvait, à terme, je l'espérais, nous rapprocher. Je passais des heures à regarder sa jupe se soulever quand elle sautait. Elle portait des collants de laine blanc. Je n'avais rien vu de plus charmant. Il me rendait dingue ces collants blancs, surtout quand elle les accompagnait de ses souliers noirs vernis à semelle plate. On aurait dit une petite fille de roman bourgeois, une chipie à laquelle on excuse tout. Elle avait remarqué que je la regardais, mais faisait semblant de ne rien voir. Peut-être était-elle aussi timide que moi. Pourtant, on n'aurait pas dit. Elle semblait à l'aise avec les autres et pas qu'avec les filles. Il lui arrivait d'ailleurs de rigoler avec des garçons. Le soir, chez moi, j'élaborais d'habiles techniques d'approche que, bien sûr, je n'osais pas le lendemain mettre en pratique. Dieu sait pourtant que j'en avais envie. Prête à tout pour ma chérie, sauf à lui parler. De toute l'année scolaire, je n'ai jamais osé lui adresser la parole. Attendez, je me trompe. Elle et moi avons eu une fois une conversation. C'était le premier jour du printemps. Il pleuvait. Elle était en train de discuter avec une camarade sous le porche du hall d'entrée. Elle portait à merveille un duffelcoat vert tendre. Stratégiquement placé à quelques mètres d'elle, je la surveillais du coin de l'œil. Sa copine m'aperçut, puis, en riant, souffla quelque chose à l'oreille de ma belle. Celle-ci me regarda à son tour, mi-étonnée, mi-moqueuse. Je rougis brusquement. Elle s'avança vers moi, je blêmis. Je ne l'avais jamais vue d'aussi près. Elle était encore plus belle à cette distance. Il fallait que je dise quelque chose. J'ouvris péniblement la bouche, attendant que les mots, les plus beaux mots de ma courte vie, sortent. Rien ne vint. Ce fut elle qui m'adressa la parole en premier. « Salut, tu t'appelles comment ?»« Franck. »« Moi, c'est Fleur. T'es en CM2 ?»« Non, en CM1. »« Ah. » J'espérais qu'elle allait dire autre chose, mais dans un sourire énigmatique, elle retourna voir sa copine. Je restais planté là, anéanti. Que voulait dire ce terrible « ah » ? Que le fait que je ne sois pas en dernière année de primaire rendait notre aventure impossible ? Qu'elle ne fréquentait pas des gamins dans mon genre ? Lui demander des précisions aurait été ridicule. J'étais condamné à ne pas savoir. Les semaines qui suivirent, je me cassais les os du crâne à interpréter ce satané « ah ». J'enrageais. Bien des années plus tard, je compris qu'avec les femmes, on est condamné à ne jamais comprendre. Je me disais qu'avec l'étudiante dévergondée, tout devait être plus simple. On lui faisait l'amour, et voilà, tout allait bien. Elle ne demandait rien de plus, sinon de vous embrasser le dos de la main. Fleur ne revint plus me parler. Je ne parvins même pas à la détester. Mon deuxième amour s'appelait Axel. Ce que je l'ai aimé. Elle aussi, elle m'a adoré, je crois. Nous n'avons malheureusement pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de notre passion, jusqu'au bisou sur la bouche. Combien de fois me suis-je fait violence ? Allez, c'est le moment ! En vain. Si je ne suis jamais passé à l'acte, c'était par peur d'un refus, pourtant plus qu'improbable. Cette satanée peur qui me mangeait le ventre, m'écrasait la poitrine, a été la plus grande ennemie de mes 25 premières années. À cause d'elle, j'arrivais à rien, à part engranger amertume et regret. Axel, pardonne ma lâcheté. Je t'ai vraiment aimé, tu sais. Tu te souviens ce soir d'été, quand nos parents dînaient ensemble à la terrasse d'un restaurant ? On jouait à la corde à sauter sur le trottoir. On se regardait dans les yeux, seul au monde, ivre d'amour. C'est là que j'aurais dû t'embrasser. On le voulait très fort tous les deux, ça aurait dû se faire naturellement. Il ne s'est rien passé. Je t'ai senti déçu, trahi. J'en crève encore. Pour me faire payer, tu es sorti avec Daniel, un vulgaire qui t'embrassait tout le temps, dans la cour, dans les couloirs, devant tout le monde. Je vous observais, écœuré. Je ne faisais que ça, vous observer. Il était brutal et tu aimais ça, qu'il te force un peu la main. J'aurais voulu le tuer. Le soir, seul dans ma chambre, je le boxais de toutes mes forces sur la musique de Rocky. Je le massacrais et tu n'étais pas là pour m'applaudir. Alors je pleurais. Je t'aimerai toujours, Axel.
Voilà, si vous êtes impatient d'avoir la suite, eh bien c'est sur le site www.mano-livre.com que vous pouvez la télécharger dès maintenant et gratuitement. C'est le premier livre audio gratuit, hein, profitez-en. On passe maintenant à un tout autre sujet, quoique on va parler du livre de Julien Picard, Notre désir cannibale, du mythe aux faits divers. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, à mon grand étonnement. Je l'ai reçu, je l'ai ouvert, je ne l'ai pas lâché. Faut dire, un livre qui commence comme ça, je cite. « Avez-vous déjà mangé un gland ? C'est un chou à la crème recouvert de nappage glacé, le plus souvent vert, et de quelques pépites de chocolat. Quand on aime la crème, c'est très bon. » Mais quand on aime le gland, c'est toujours délicat d'en demander un à la boulangère. Vous l'avez compris, il va être question des métaphores culinaires en ce qui concerne l'amour. Tout de suite, on écoute l'auteur de ce livre, donc Julien Picard. Julien Picard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste et écrivain, et le livre que j'ai entre les mains s'appelle « Notre désir cannibale, du mythe aux faits divers ». Alors, pourquoi avoir eu envie d'écrire sur le cannibalisme passionnel, dirons-nous, puisque vous évacuez de ce livre tout ce qui touche aux faits divers, mais qui est le cannibalisme de survie, ça vous n'en parlez pas. Vous parlez du désir cannibale. Alors, d'où est venue cette idée de sujet plutôt originale ?
Ben en fait, c'était un petit peu dans la lignée des livres que j'avais pu faire avant, où il s'agissait de réfléchir à la sexualité, mais enfin dire par le petit bout de la lorgnette, plutôt en s'intéressant soit à des minorités, soit à des comportements minoritaires, et pas par effectivement ce qui fait a priori le commun de la sexualité de la plupart des gens. Et cette idée du cannibalisme m'est venue en lisant un article dans un quotidien sur les pratiques cannibales pendant la préhistoire. Donc a priori, pas vraiment de lien direct avec notre sexualité d'aujourd'hui, mais je ne sais pas comment cette idée a fait son petit chemin, et je me suis dit peut-être qu'il y a des choses à voir sur notre sexualité aujourd'hui, et en tout cas, il n'est pas possible que des pratiques cannibales, aussi anciennes soient-elles, n'aient pas laissé des traces chez nous, ne se traduisent plus d'aucune façon dans nos comportements, même si effectivement, au début de mes recherches et au début du livre, j'envisage ça plutôt comme des pratiques minoritaires ou complètement, très rares, ou complètement sublimées. C'est un petit peu ce vers quoi je tends dans le bouquin. Mais au début, je pensais vraiment que le cannibalisme pouvait, de temps en temps, très ponctuellement, irriguer un peu notre sexualité. Et puis, de fil en aiguille, au fil de mes recherches, je me suis dit que peut-être ça prenait beaucoup plus de place dans notre vie sexuelle et dans notre vie sentimentale que je ne le pensais au début, en fait.
Oui, c'est ce qui m'a frappé tout de suite quand je vous entends dire pratique minoritaire. En fait, quand on observe le champ lexical, comme vous l'avez fait, le champ religieux aussi, puisque le corps du Christ, eh bien, on le mange, on se rend compte que le cannibalisme, même si on l'oublie, même si ce n'est pas de manière hyper consciente, il est présent partout. On appelle son amoureuse mon chou, et tout est lié au fait de manger. Manger et faire l'amour, et manger et aimer sont liés.
Ben c'est vrai que dans le vocabulaire, c'était un point de départ assez facile, assez immédiat. C'est vrai que, alors il y a des expressions très crues que je ne me permettrai pas de reprendre, mais il y en a d'autres plus, effectivement, mon chou, où on peut dire des fois ma cocotte, ma poule, où on dit consommer le mariage dans un registre beaucoup plus neutre et beaucoup plus courant, mais il y a quand même l'idée de consommation. Il y a toutes les expressions qui sont liées directement à la gastronomie, comme un croque-monsieur, un croque-madame. Et c'est vrai que je trouvais que cette liste était quand même un peu trop longue, pour être tout à fait honnête, quoi. Forcément que ça voulait dire quelque chose, qu'il ne pouvait pas y avoir une telle coïncidence du langage sur ce point sans que ça veuille dire quelque chose de notre sexualité. Et c'est vrai que, pas seulement d'un point de vue du vocabulaire, mais même je trouve que des fois dans nos attitudes à tous, hein, dans nos regards et tout, il y a quelque chose d'assez commun entre la façon dont on peut regarder un individu qu'on va désirer et puis un bon plat, enfin qu'on a envie de manger quelque part. Je sais pas, les yeux pétillent de la même façon, on s'enlèche les babines, on a envie. Évidemment, c'est toujours plus simple de manger un produit, une tarte ou quelque chose qu'on a envie de manger qu'après à pouvoir avoir une relation avec la personne qu'on désire, évidemment. Après, ça ne fonctionne plus de la même façon. Mais au point de départ, je trouve que même physiquement, dans nos expressions et dans nos façons de faire, il y a quelque chose d'assez commun et qui n'est pas seulement du niveau du langage. Et justement, parce que finalement, je pense que c'est évidemment l'idée du bouquin, que finalement, notre appétit pour les choses qu'on consomme, les choses à manger et le désir sexuel, finalement, sont construits un peu sur le même modèle, sur le même schéma. Alors évidemment, avec une barrière, parce que forcément, on ne peut pas faire exactement la même chose.
Oui, le problème, c'est que si on mange l'être aimé, on ne le mange qu'une fois.
Ben oui, c'est tout. C'est la principale barrière. C'est qu'effectivement, comme on ne pourra pas recommencer, on va s'en abstenir. Mais je pense qu'après aussi, peut-être qu'on peut aussi envisager très froidement les choses comme une simple question de goût. Peut-être qu'après, la chair humaine n'est pas très bonne à manger. C'est ce que disent certains, mais d'autres disent le contraire. En tout cas, peut-être que finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à manger d'un sens propre, et que c'est peut-être aussi pour ça que finalement, on se contente de rester dans le domaine du fantasme, et qu'on le fait pas seulement parce qu'on est des gens civilisés et que c'est interdit par la loi. Peut-être que juste, c'est pas très intéressant, peut-être, finalement, émotionnellement, et peut-être qu'il vaut mieux justement rester dans le registre du fantasme pour continuer d'alimenter perpétuellement ce désir qui sinon t'as tout d'un coup serait éteint. Et finalement, c'est toujours assez triste quand le désir s'éteint. Peut-être que du coup, comme ça, on l'alimente. Justement, on a encore une métaphore gastronomique.
Et alors, justement, c'est aussi peut-être une manière de rendre, non pas inextinguible le désir, mais de se rendre proche à tout jamais de la personne qu'on a désirée et qu'on a aimée, que de le manger. Et ça, vous racontez l'histoire, enfin, je ne sais pas si c'est un mythe ou une légende, la légende du cœur mangé. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot, mais c'est aussi une manière d'être en permanence avec l'autre, de faire taire la notion de perte.
Oui, tout à fait. C'est une légende que je connaissais pas du tout. La légende du cœur mangé, elle est très, très présente dans la littérature occidentale des 12e, 13e siècle. Et l'idée, c'est qu'en fait, le principe, la trame de base est très simple, hein. Un homme est trompé par sa femme, qui a donc un amant. Et pour prix de cette infidélité, le mari va faire manger à son épouse le cœur de son amant. D'où le titre de la légende, le cœur mangé. Et il y a pas mal de récits médiévaux sur ce sujet-là. Et on le retrouve après de façon beaucoup plus épisodique dans la littérature, par exemple chez Stendhal, et on en retrouve une variation dans un film qui avait été fait à la fin des années 80 par Peter Greenaway, Le mari, le voleur, le mari, le cuisinier, sa femme et son amant. L'idée, c'était qu'effectivement, à la base, c'est une punition. Le mari veut punir la femme de son infidélité en faisant disparaître son amant. Et en fait, preuve que la jalousie conduit en général à des comportements assez inintéressants, c'est ce qui va se passer au fond, c'est que finalement la femme, son épouse, va ne faire qu'un avec le corps de son amant, et donc ils seront finalement à tout jamais liés. Même si c'est par un procédé extrêmement violent et qu'effectivement, évidemment, l'épouse maîtresse va en être traumatisée, mais quelque part, le but que poursuivait le mari ne sera pas atteint parce qu'il voulait les séparer, il voulait punir son épouse et en fait, il ne va faire que rapprocher l'épouse et son amant. Et c'est une idée, cette idée de la fusion par la mort, qui va être reprise dans deux faits divers de cannibalisme, qui ont défrayé la chronique, parce que de toute façon, il y en a tellement peu que, et heureusement, que donc forcément, quand il y en a un, ça marque les esprits. Il y a d'abord eu celui au début des années 80 du japonais cannibale, celui-là, à peu près tout le monde le connaît. Enfin, c'est un fait divers qui a énormément marqué les esprits. Et puis un second, à la fin des années 80, non, je crois que c'est 2000, enfin, à 1 ou 12 ans près, c'est un fait divers qu'on avait appelé celui de Rothenburg, avec le cannibale de Rothenburg, où c'était deux amants homosexuels. Et là, la différence fondamentale du fait divers précédent, c'est qu'en fait, un des deux amants avait accepté d'être mangé par l'autre, c'était son fantasme, et tous les deux étaient d'accord. Alors que dans le fait divers du japonais cannibale, le japonais avait tué une amie à lui, et alors qu'elle venait évidemment dans un objectif tout à fait différent, et il l'avait mangé par la suite.
Alors, je crois qu'il ne l'avait pas mangé intégralement, il avait mangé les fesses, je crois.
Voilà, il était surtout, si ma mémoire est bonne, il était surtout intéressé par ses fesses, et effectivement, il en avait juste, parce qu'il le dit dans le livre que Patrick Duhaval lui a consacré, il dit qu'en fait, c'était pas très bon, pas très intéressant, pas très intéressant au goût, ce qui prouve bien qu'en fait, c'était beaucoup plus symbolique et que gustatif. Et de toute façon, c'est la même chose dans l'histoire du cannibale de Rothenburg, c'est l'idée de ne faire qu'un, et en l'occurrence, ce qui est encore plus intéressant dans l'histoire du cannibale de Rothenburg, parce que c'est le seul exemple qu'on a de cannibalisme consentant par la personne qui est mangée, c'est vraiment l'idée de disparaître dans celui avec qui on a fait l'amour, dans celui qu'on aime, ce qui est après tout une forme de mort, après tout, la personne était consentante, donc pourquoi pas.
Mais c'est oui, vrai mais que... je crois d'ailleurs que c'est une petite annonce, et il a eu plusieurs réponses de personnes dont c'était le fantasme. En fait, le truc, c'était de se faire l'amour, se faire couper le sexe et déguster ensemble le sexe de celui qui avait répondu à la petite annonce.
Et d'ailleurs, il y avait, je crois, plusieurs centaines de personnes qui avaient répondu à cette annonce, au moins 200 de mémoire, mais peut-être plus. Et donc, c'était aussi bien en Allemagne qu'en Grande-Bretagne, enfin, on va dire en Europe occidentale. Et effectivement, l'idée, c'était que l'amant qui allait être consommé allait être, je ne sais plus exactement, mais anesthésié ou plus ou moins endormi par certains médicaments pour qu'il puisse à la fois, sans trop souffrir, se voir couper son pénis, mais en même temps être conscient par la suite pour le manger avec donc l'amant qui donc allait ensuite le tuer un peu plus, si mes souvenirs sont exacts. C'est vrai qu'il y a... C'est le seul cas connu, de toute façon il ne doit pas y en avoir des tonnes, de cannibalisme consentant. Et c'est vrai que, aussi bien dans la légende du cœur mangé, que dans l'affaire du japonais cannibale, que dans celle du cannibale de Rothenburg, l'idée c'est toujours quelque part de dépasser la mort qui, par définition, sépare les êtres qui peuvent s'aimer et marquer justement la fin de cet amour, et de rendre l'amour plus fort que la mort par la fusion des êtres, et évidemment par une solution extrêmement, extrêmement violente, et qui vise quelque part aussi... comme souvent dans ces histoires-là, à nier une certaine humanité de l'homme, parce que finalement, notre sort, c'est de mourir, et quelque part, dans ces faits divers, et c'est ce qui fait aussi que ce ne sont que des faits divers, il y a un refus de la condition humaine, et du fait que oui, un jour, la mort nous séparera, et que dans cette volonté de manger, il y a une volonté de dépasser cette condition et de ne pas l'accepter de façon pathologique.
Il y a aussi l'idée d'abandon, c'est-à-dire de s'abandonner complètement, ce qui est le principe même de l'amour, en tout cas quand c'est bien et bien vécu. Mais là, c'est l'abandon total au point de disparaître en l'autre aussi.
Oui, quelque part, c'est la forme la plus... c'est ce que disent... Oui, c'est la forme la plus aboutie de l'amour. Effectivement, c'est la fusion totale. C'est au-delà de ce que vit effectivement en général le commun des mortels. Mais c'est en même temps ce que recherche tous les mortels. C'est le mythe originel de fusion de l'être, l'idée que de toute façon on cherche chacun sa moitié, qu'on va ne faire qu'un tout. Et c'est vrai que de toute façon c'est quand même présent dans les esprits de tout le monde. On est éduqué dans cette idée-là qu'on va trouver notre moitié, d'ailleurs le terme même de moitié inclut qu'on est finalement quelque part pas totalement complet, nous en tant qu'individus, et qu'on a besoin de retrouver notre moitié avec laquelle on va parfaitement s'emboîter, et on va s'emboîter par les organes génitaux. Et donc, c'est l'idée finalement vraiment du puzzle, quoi. Et après...
Oui, puis c'est l'idée platonicienne de base, enfin de base, qu'on a inconsciemment, même si on n'a pas lu Platon d'ailleurs.
Oui, c'est le discours dans Le Banquet. C'est l'idée que de toute façon, il faut trouver effectivement. L'homme ne se suffit pas, l'homme au sens d'être humain ne se suffit pas à lui-même, et qu'il a besoin de trouver celui ou celle avec qui il va fusionner. Mais finalement, c'est aussi la volonté de retourner à l'état du fœtus ou du nouveau-né, qui est encore dans la fusion, qui n'est plus dans le ventre de sa mère, mais qui est encore dans l'état de fusion avec elle par le biais de l'allaitement. Et c'est finalement, à mon avis, un des ressorts fondamentaux du désir sexuel, que de vouloir retourner dans cet état de fusion primitif, premier, où quelque part, il n'y a pas de frontières entre deux êtres, et je pense que quelque part, plus ou moins consciemment, on ne se remet jamais totalement de cette séparation. Et en tout cas, peut-être que ce à quoi m'a fait réfléchir aussi les recherches sur ce livre, c'est que non seulement nous, en tant qu'enfants de notre mère et aussi de notre père, on ne s'en remet jamais complètement, mais je pense que les mères ne s'en remettent jamais aussi complètement de cette séparation, et que quelque part, dans l'éducation que nous donnent nos mères et nos pères, cette séparation... créer le terreau sur lequel nos pulsions sexuelles vont naître et se construire, et qu'il y aura toujours quelque part cette idée qu'il n'y avait rien de mieux que la fusion primordiale, et que c'était quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne pourra jamais, jamais retrouver, mais qu'on cherchera plus ou moins, et selon notre maturité, nos possibilités, nos envies sexuelles, mais qu'on recherchera plus ou moins dans nos partenaires.
Alors justement, en suivant le fil de ce que vous dites là, et de vos, parce que c'est pas une seule théorie sur le cannibalisme amoureux, vous développez une thèse, une explication possible de l'anorexie, qui est assez différente que celle qu'on a d'habitude dans les magazines féminins et autres, et même chez différents psychiatres et psychologues. C'est-à-dire qu'on considère souvent l'anorexie comme un refus de son propre corps, et vous arrivez à la considérer à travers ce biais du cannibalisme comme un trop grand amour de son propre corps, au point de vouloir l'ingérer.
Oui, on peut envisager, et sans que je veuille généraliser ce propos à toutes les formes d'anorexie, mais disons que ça pourrait être une explication probable, et qu'elle est vaguement suggérée parfois par certains spécialistes de la question, c'est que peut-être que finalement cette façon de se de dépérir, mais aussi de se manger, d'attaquer ses propres réserves caloriques, de se faire fondre, c'est peut-être aussi une façon de se manger et de se désirer comme objet d'amour, de même qu'on pourra avoir envie de manger un partenaire extérieur, quelqu'un d'autre, mais que là, pour le coup, c'est une démarche, on va dire narcissique, mais sans jugement de valeur, au sens où ce désir est tourné vers soi-même, et où on se mange, mais comme, c'est d'autres exemples que je cite dans le bouquin, comme certains hommes pratiquent l'autofellation, comme nous, plus on est plus nombreux à le faire, on se mange des fois corporellement, comme on peut se ronger les ongles ou des fois se manger des bouts de peau. Il y a toutes ces façons quand même de se manger soi-même. Alors après, c'est pas forcément lié à un désir de soi, mais je pense qu'on ne souligne pas assez souvent le fait que ça peut être un désir érotique de soi-même, une forme de masturbation et de retour sexuel à soi, mais qui n'est pas souvent envisagé effectivement sous cet aspect-là, qui est plus envisagé comme une forme de nervosité, ou dans le cas de l'anorexie, qui est effectivement beaucoup plus problématique, comme une forme de difficulté, de rapport difficile à la nourriture, mais on envisage plus rarement la dimension sexuelle de ces comportements.
On va parler un petit peu de ce qui se fait en littérature ou dans les films. Il y a très peu de films qui abordent cette question. Vous parlez de celui de Claire Denis, j'ai oublié le titre, avec Béatrice. Voilà, Trouble Every Day. Et donc, il se trouve, vous le dites, qu'il y a des périodes où ce désir qu'animal ressurgit, puisque je crois que vous citez un autre film. Les deux sont apparus à peu près concomitamment, avec en plus le fait divers, mais donc c'était pas la copie. Il y a des moments où ce désir cannibal fait surface, cette question apparaît.
Oui, c'est vrai. Donc, en fait, il y avait eu une concordance de plusieurs éléments, de plusieurs événements au tout début des années 2000, puisqu'il y avait donc à la fois le fait divers du cannibale de Rothenburg, tout ça donc en 2000, 2001, 2002, à la louche, le film de Claire Denis, Trouble Every Day, avec Vincent Gallo et Florence Loiret-Caille, et puis Dans ma peau, de Marina Devane. Et donc, tout ça, effectivement, est sorti en l'espace de quelques mois. Et c'est d'autant plus étonnant qu'effectivement, il y a très peu de films. Il n'y a pas plus d'une demi-douzaine, au grand maximum une dizaine de films, si quelques-uns m'ont échappé, ce qui est tout à fait possible, qui traitent du cannibalisme, ce qui n'est rigoureusement rien par rapport à la masse de films qui ont pu être faits. Donc c'est assez étonnant. Et en tout cas, le peu de films qu'il y a sur le sujet sont quand même très intéressants. Donc après tout, c'est peut-être pas si grave qu'il y en ait peu, puisque au moins ils sont tous très bien. Puisque donc il y avait le film de Greenaway, dont j'ai oublié le titre, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, qui reprend la légende du cœur mangé. Trouble Every Day est une histoire plus de cannibalisme consentant. Il y a aussi Béatrice Dalle, j'ai oublié de la citer tout à l'heure, dans ce film. Et c'est vrai qu'il y a le forme donc un trio avec Vincent Gallo, Florence Loiret-Caille, où le cannibalisme est plus ou moins consentant, sans qu'on sache jamais s'il l'est vraiment, puisqu'il y a même des scènes extrêmement violentes, et une scène dont on ne sait pas si c'est une scène de viol ou une scène de cannibalisme consentant. Et en tout cas, le film est suffisamment bien fait pour que ça nous renvoie à nos propres désirs, et justement au ressort cannibal de notre propre désir sexuel. Et c'est un film qui est, pour le coup, très troublant. Et l'autre dont on parlait, Dans ma peau, de Marina Devane, c'est une femme, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait plus sur l'anorexie, c'est une femme qui va découvrir le plaisir de se manger suite à un accident tout bête. Elle s'abîme en tombant le genou, elle s'érafle et sa chair est à vif, et elle va découvrir un plaisir de plus en plus grand de se manger, et même de s'arracher des bouts de peau, de les tanner et d'avoir un rapport à son corps assez étonnant. Et ces films-là, c'est vrai que Ils sont extrêmement dérangeants, parce que comme c'est un thème très peu abordé dans le cinéma et globalement dans la littérature, il nous renvoie effectivement à cette question du cannibalisme qu'on aborde peu, peut-être parce qu'au fond elle nous dérange, parce que finalement le cannibalisme, quelque part c'est toujours l'autre. C'est soit dans les mythes ou dans les textes religieux, une espèce d'être primitif, évidemment donc avec ce que le mot primitif peut avoir de péjoratif, pas très élaboré psychologiquement et émotionnellement. C'est l'autre aussi des fois dans ce sens que c'est l'homme préhistorique, dont on suppose, parfois à tort, parfois à raison, qu'il mangeait. En tout cas, c'est l'image qu'on a globalement de l'homme préhistorique. Et c'est aussi l'autre des faits divers, dont on a déjà parlé, et ça peut être l'autre dans certaines légendes, mais c'est toujours, et puis effectivement, j'allais oublier un élément important, c'est aussi l'autre, ce sont les peuples américains, asiatiques, océaniens, tels qu'on les concevait, les percevait au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, où on imaginait que forcément ils étaient cannibales. Finalement, oui, le cannibale, quelle que soit cette façon d'être un autre, c'est toujours un autre, ça n'est jamais nous, ça n'est jamais envisagé comme étant une partie des fantasmes qui alimentent notre sexualité, alors qu'en fait, ça l'est complètement. Mais on fait ça de toute façon pour tellement d'autres choses que c'est pas étonnant qu'on le fasse aussi pour ça.
Mangez-moi. C'est aussi l'envie d'éteindre ce désir qu'on ne contrôle pas. Parce que voilà, il y a aussi ce désir qui nous échappe de l'autre, qui dépasse parfois notre raison, notre intelligence. C'est un truc pulsionnel. Et on se dit, mais voilà, on se dit ou on ne se dit pas, mais l'idée, c'est de le manger pour que ça cesse. Parce que c'est quand même douloureux parfois de désirer.
Oui, c'est vrai que quelque part, cette pulsion de manger l'autre, elle peut être nourrie par cette envie concomitante de tuer ce désir qui, des fois, effectivement, nous envahit, est trop pesant, nous empêche de faire de mener le reste de notre existence. Et quelque part, manger l'autre, ce serait le faire disparaître. Et donc, à la fois le posséder, comme on l'avait déjà dit, mais en même temps, ne plus sentir en soi ce désir de lui, ce désir de l'autre, et être quelque part en paix, parce que le désir amoureux, c'est vrai qu'en général, il nous perturbe, même s'il nous transporte, mais il nous perturbe aussi fondamentalement.
Donc là, manger, c'est la solution ultime.
Ah oui, de toute façon, oui, ça pourrait être la solution ultime. C'était d'ailleurs parce que c'est la solution ultime qu'on n'y recourt pas si souvent.
Mais même si on n'y recourt pas si souvent, dans nos pratiques, mais même depuis les relations entre une mère et son enfant, ou un père et son enfant, je vais te manger, ça se dit tout le temps. Un petit enfant, on l'attrape, on le pince, sans parler de pédophilie, c'est ce désir de manger qui reste tout au long de la vie.
Oui, c'est vrai que moi, ça, en travaillant sur ce livre, j'étais frappée de voir à quel point très souvent les parents, enfin les membres d'une famille, peuvent presque faire semblant de manger le nouveau-né jusqu'à un âge pas très, enfin de 2-3 ans, après on arrête assez vite. Mais il n'y a même pas vraiment de tabou, de gêne à le faire, à manger les pieds, les mains, les petits mollets dodus. Ça ne choque pas vraiment qui que ce soit, ça fait partie des coutumes, alors qu'on peut quand même y voir quand même la sublimation, enfin tout juste une sublimation d'une pulsion cannibale. On est presque à deux doigts de manger, on ne le fait pas, mais enfin on a quand même la bouche contre la peau de l'autre, et qui plus est, un être qui par définition est complètement sans défense, pour lequel la notion de consentement ne peut même pas exister. Et on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement limite en termes de respect de l'autre, et on fait tout ça sans aucune gêne et sans y voir malice. Mais si on réfléchit bien, on peut quand même se demander si quelque part, c'est pas de la chair fraîche qui nous attire, peut-être pas dans un sens forcément sexuel, mais dans un sens peut-être plus de consommation ou d'envie de la jeunesse et de la vie de l'autre, puisqu'on parlait de récupérer les forces de l'autre, de récupérer ce qu'on n'a pas. Et forcément, la jeunesse ne fait que s'en aller, et donc on peut aussi avoir envie, par ce biais, de manger la jeunesse, la vitalité, la fraîcheur de ce nouveau-né. Et de toute façon, c'est vrai que je trouve que souvent, la fraîcheur est quand même une notion très importante dans le rapport à l'autre et dans sa capacité à nous plaire. Je pense pas seulement que notre société, parce qu'il me semble qu'effectivement notre société, si on peut dire, est gérontophobe, en ce sens qu'elle ne sait pas quoi faire des personnes âgées, et qu'elle ne sait pas quoi faire, et qu'elle a tendance à rejeter le vieillissement, le dépérissement auquel on est tous confrontés. Et donc je pense qu'il y a effectivement à la fois une forme sur ce point de xénophobie, de rejet qui est à travailler, mais il y a en même temps quelque chose d'inéluctable qui est que de toute façon, le désir sexuel est fait de cette façon-là, comme il est une forme de faim, comme il est construit sur l'appétit, il est normal que la notion de fraîcheur soit fondamentale dans ce désir sexuel. Alors, il n'est pas question d'un seul instant de cautionner le fait qu'on pourrait avoir du désir sexuel et exprimer ce désir sexuel avec des enfants, des adolescents, mais je pense que c'est évident, il est évident que quand on regarde quelqu'un, la fraîcheur ou tous les artifices qui peuvent nous permettre de redonner de la fraîcheur à nos corps, qui sont forcément vieillissants, accroissent le désir des autres et que ça fait partie du jeu de la séduction. Et c'est vrai que je pense qu'on, quelque part, on regarde les personnes qui nous tentent et qu'on voudrait tenter comme on peut regarder effectivement des produits sur un marché. Et de ça, je pense que ça date d'il y a très longtemps et que c'est pas du tout lié, même si ça peut être amplifié par la société capitaliste. Forcément, on est dans une logique de consommation qui est ancienne.
Merci à Julien Picard. Notre désir cannibale, du mythe au fait divers, paru aux éditions La Musardine, dans la collection L'Attrape-Corps. Un livre étonnant parce qu'il dit beaucoup plus que le sujet plus ou moins léger qu'il est censé évoquer. Alors, je ne résiste pas justement à l'envie de vous lire un petit morceau de sa conclusion. Au départ de ce livre, il n'était question que d'interroger notre désir cannibale, c'est-à-dire de comprendre comment notre vie sexuelle pouvait être stimulée par des pulsions cannibales que nous serions bien peu nombreux à reconnaître. En cela, il comportait une part de provocation en voulant mettre à jour ce que nous confinons habituellement à la nuit, celle de nos rêves, comme nos ébats amoureux. Au final, il se révèle être une réflexion sur le désir tout court, puisqu'il s'est avéré au fil des pages que parler de désir cannibale était un pléonasme. Le désir est une fin et, qui plus est, se dévoile incestueux et meurtrier. Est-il possible de ne pas conclure qu'il est égoïste ? Le désir est en réalité un plaisir solitaire qui se partage parfois pour mieux s'éprouver. Il ne se dirige vers l'autre que pour mieux satisfaire un appétit versatile. Repas chaud, puis buffet froid, il finit sans goût ni saveur sur le lit desservi de nos fantasmes. Le désir n'a pas d'avenir alors qu'il se l'imagine rose et ensoleillé. Il est fait de rêves, de passé, envie de soi et fantasmes de mère. Le désir est d'hier avant même qu'il ne naisse. Sinon, comment comprendre que le couple ne s'en suffise pas pour durer. Pourquoi deux êtres auraient besoin d'amour pour continuer à marcher ensemble si le désir n'était ce sentiment trompeur qui donne le tournis pour mieux faire oublier son manège ? Quand le désir est égoïsme, l'amour est généreux. Le premier est destructeur quand le second sera porteur. Ainsi, puisque le désir est régression, alors que l'amour est création, toute relation à deux doit un jour choisir sa direction, la passion ou la raison, le ménage ou le désordre. Fort heureusement, nous avons le choix. Fort heureusement, nous avons encore la folle liberté de tout casser, ne rien construire, de profiter sans engendrer. Fort heureusement, nous avons le droit de tout inventer et de tout recréer. Voilà, beaucoup plus subversif qu'il n'en a l'air, ce livre, donc de Julien Picard, que je vous recommande vivement. Et maintenant, on ne va pas tout à fait quitter le sujet, puisqu'on va écouter une chanson de Nicolas Joseph.
Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, qu'il faut que tu me touches du bout de ta bouche, me susurre des mots et me suce le cerveau, me suce le cerveau. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, il faut que tu me lapes, me tâtes et me battes, et que tu me chatouilles, et aussi que tu mouilles. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, que l'on se fait mourir, et parfois aussi rire. Que l'on se fait mourir, et parfois aussi rire. Il faut que l'on se calme, et du coin de nos palmes, qu'on se caresse, là du bout de nos fesses, et qu'on respire, la tête contre nos cuirs, la tête contre nos cuirs. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, et te dire pardon pour mes nombreux silences qui te pètent les plombs, et mon absence immense, et mon absence immense. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, ma chemise s'étiole de ton doux vitriol, que tu m'injectes sans tact, j'affiche éjecte, contact. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, il faut que je te dise qu'il faut que je t'écrive. Ça pèse sur mes bras comme vent dans les bois, ça pèse sur mes bras comme vent dans les bois. Il faut qu'on fasse à face, et que l'on prenne place, et que l'on prenne place. Il faut qu'on fasse à face, et que l'on prenne place, que l'on prenne place. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, que l'on s'est en battu, que l'on s'est en vaincu. Chaque jour et partout, aussi là dans la rue, à trous. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, il faut que tu me lapes, me tâtes et me battes, et que tu me chatouilles et aussi que tu mouilles. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive. Là sur mon visage, ma peau perd son plumage, mes cheveux se poivrent grise, je me jette dans la Tamise. Voilà sur mon visage, Ma peau perd son plumage, mes cheveux se poivrent grise, je me jette dans la Tamise. C'est acidé, c'est rance, les sentiments, ça ronge, les sentiments, ça ronge. Dans la nuit sombre où plonge la dureté en cadence, allez danse, la dureté en cadence, allez danse, allez danse, allez danse.
Voilà, c'était Nicolas Joseph sur Allegre FM 93.1. Nicolas Joseph que vous pourrez trouver en concert le 6, c'est samedi je crois, ou non, peut-être pas, peut-être même c'est vendredi. Et c'est à la Manufacture de la Chanson dans le 10e arrondissement. Cherchez tout ça sur internet, vous allez trouver. C'est à ne pas rater, vous pourrez entendre son nouvel album. Et c'est quelqu'un que je trouve assez formidable comme chanteur.